Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 2 février 2026, du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. On vit aujourd'hui une journée assez fascinante, une sorte de carrefour pour l'intelligence artificielle.
Oui, on a vraiment l'impression que trois plaques tectoniques sont en train de se percuter.
C'est ça. D'un côté, on a une innovation, on peut le dire, débridée, symbolisée par la fin de deux grands concours étudiants ce week-end.
De l'autre, un cadre réglementaire européen qui, lui, se précise, se durcit même, avec une échéance capitale aujourd'hui.
Et au milieu de tout ça, une industrialisation qui passe à la vitesse supérieure. Ça change tout. La question qu'on va se poser, c'est comment ces trois forces, l'innovation, la régulation, le marché, s'entrechoquent et se façonnent mutuellement en ce début d'année 2026.
C'est exactement le bon angle. Parce que ces forces, elles ne coexistent pas pacifiquement. Elles sont en tension permanente.
Ah oui, oui.
L'industrialisation, elle dévore l'innovation, pendant que la régulation tente de lui mettre une bride. Et l'innovation, de son côté, elle cherche constamment à contourner les règles, à surprendre le marché. C'est cette friction qui est passionnante à analyser.
On est dans les rapides, pas dans un long fleuve tranquille.
Pas du tout.
Alors, partons de la source de l'énergie la plus brute, celle de la nouvelle génération. Ce week-end, ça bouillonnait sur les campus.
Ah, ça oui.
On a eu la clôture du hackathon Akin-Saclay. 150 étudiants, 40 heures non-stop pour créer des prototypes.
C'est énorme.
Et sur des thèmes comme l'IA pour la santé, pour l'environnement, du très très concret.
Et juste avant, il y avait aussi la fin d'Act in Space, un autre hackathon, mais là d'envergure internationale, piloté par le CNES et l'ESA.
D'accord, donc les gagnants de Paris-Saclay, de Rennes, préparent les finales maintenant.
Exactement, à Bordeaux en avril. Mais ce qui est marquant, ce n'est pas tant les concours en eux-mêmes, c'est ce que ça révèle sur l'écosystème.
C'est-à-dire, au-delà de l'enthousiasme, qu'est-ce que ça nous dit vraiment ?
Bah, ça nous dit que pendant que les grands groupes et les gouvernements discutent de stratégie, de gouvernance de l'IA par le haut, il y a une armée de jeunes talents qui construit le futur par le bas. Ils font pas de grands discours, ils codent des solutions.
Ils sont dans le concret.
Voilà, ils s'attaquent aux grands défis, le climat, la santé, avec une approche très pragmatique. C'est le vivier des futures startups, peut-être des futurs géants de la tech européenne. Ils sont la preuve que l'innovation, elle, n'attend pas que le cadre soit parfaitement défini pour exister.
Ce qui nous amène à une transition parfaite. On a cette énergie folle qui vient d'en bas, mais en même temps, en haut, à Bruxelles, l'ambiance est sans doute un peu différente, moins à l'expérimentation débridée.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Aujourd'hui, le 2 février, c'est une date qu'ils ont cochée en rouge sur leur calendrier, non ?
En rouge vif même. C'est la date limite que l'AI Act, le grand règlement européen, avait fixé à la Commission pour publier ses lignes directrices.
Ah oui, c'est vrai.
Et le cœur du sujet, c'est de clarifier une notion qui angoisse tout le secteur IA. Qu'est-ce qu'un système d'IA à haut risque ? La Commission doit sortir une liste d'exemples, de cas concrets, pour que le flou s'arrête enfin.
Attends, donc si je comprends bien, ça veut dire que toute l'industrie européenne est suspendue à la publication d'un document pour savoir à quelle sauce elle va être mangée. C'est un peu ça, c'est un moment de vérité.
Imaginez la petite équipe qui a gagné Akin-Saclay avec une super idée d'IA pour le diagnostic médical.
Oui.
Leur avenir dépend entièrement de ce document. Si leur solution est classée haut risque, ils devront faire face à des obligations de documentation, d'audit, de transparence qui sont...
extrêmement lourdes, j'imagine.
Très lourde et très coûteuse. Pour une jeune pousse, ça peut être un mur infranchissable. La régulation, pour eux, ce n'est pas un concept abstrait, c'est un couperet potentiel.
On voit bien la tension, là. L'innovation qui veut aller vite et la régulation qui, par nature, freine pour sécuriser.
L'objectif affiché par l'Europe, c'est de créer un cadre de confiance, de protéger les citoyens sans tuer l'innovation. C'est l'éternel dilemme, là.
L'équilibre impossible ?
On verra. Mais ces lignes directrices, c'est la première tentative concrète de tracer cette ligne de crête. L'écosystème attend de voir si c'est une barrière ou une rampe de lancement pour une IA à l'européenne, plus éthique.
Et pendant que ces deux mondes s'observent, celui des innovateurs et celui des régulateurs, il y a un troisième acteur, l'industrie, qui lui n'attend personne.
Ah non, lui il a mis le pied au plancher.
On sort définitivement de la phase de l'expérimentation, on dirait.
Le mot est faible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est passé de 5% d'entreprises qui utilisaient l'IA générative en 2023 à...
près de 80% qui l'utilisent ou prévoient de le faire début 2026.
80%. Ce n'est plus une vague, c'est un tsunami. La phase de « on teste pour voir » est terminée. On est entré dans l'ère du déploiement à grande échelle.
Et apparemment, ça paie. Les sources parlent de gains de productivité de 15 à 30%. L'IA, c'est plus le projet sympa du département innovation.
Non, c'est devenu une arme stratégique au cœur du réacteur. L'estimation de McKinsey, elle donne le vertige. L'IA générative pourrait ajouter entre 2,600 et 4,400 milliards de dollars par an à l'économie mondiale.
C'est colossal.
C'est colossal, mais, et c'est le point crucial que beaucoup d'entreprises sous-estiment, ces gains ne sont pas magiques.
Ils ne tombent pas du ciel.
Exactement. Il ne suffit pas de brancher un outil.
C'est le fameux chaînon manquant. Il faut former les gens.
Précisément. Et c'est une transformation des compétences qui est radicale. On demande maintenant aux équipes de maîtriser l'art de la requête précise, le prompting. Mais ça va plus loin.
C'est-à-dire ?
Il faut instiller une culture de la méfiance positive, savoir que le modèle peut se tromper, et donc développer des réflexes de vérification, de croisement des sources, d'enrichissement de ce que l'IA propose. Le travail humain, il ne disparaît pas, il se déplace.
Il change de nature.
Voilà. Il passe de la création de la première version, à la supervision critique, à la validation, à l'ajout de la nuance, du contexte que la machine, elle, n'a pas.
Et cette industrialisation, on la voit aussi très concrètement dans les produits qui arrivent sur le marché. En regardant les annonces du CES de Las Vegas en janvier, il y a une tendance qui crève les yeux.
La physical AIA.
Oui, l'IA qui s'incarne dans des objets.
L'IA sort de l'écran. C'est un changement de paradigme. On passe de l'IA qu'on utilise sur son ordinateur à l'IA qu'on porte sur son nez.
Ouais. Ou avec laquelle nos enfants jouent sur le tapis du salon. Exactement. On parle des lunettes connectées Meta Ray-Ban, display, qui ne se contentent plus de prendre des photos, mais voient et comprennent le monde.
Ou même les briques Lego Smart Bricks qui arrivent en mars. L'IA devient un jouet.
C'est ça. L'IA devient un jouet, un outil du quotidien. Sans parler des robots assistants qui se perfectionnent.
Et pendant que l'IA prend corps dans le monde physique, elle devient aussi plus intelligente, plus autonome dans le monde numérique.
Oui, on attend l'annonce d'Amazon, là, le 26 février, sur son nouvel assistant Alexa Plus.
Exactement. Propulsé par leur modèle Nova, mais aussi par Claude, le concurrent de ChatGPT. L'idée, c'est de passer d'un assistant qui répond à des commandes simples à un véritable agent proactif.
Qui agit à notre place, en fait.
Voilà, qui gère des tâches complexes sur plusieurs applications pour nous.
Ce qui m'amène à un concept qui fait un peu froid dans le dos pour une partie d'Internet. La recherche zéro clic.
Ah oui, le zéro clic.
L'idée que plus de la moitié des recherches donneront une réponse directe, synthétisée par l'IA, sans qu'on ait besoin de cliquer sur un lien.
C'est une révolution et une potentielle apocalypse pour tout un pan de l'économie numérique.
Les médias en ligne, les blogs,
les comparateurs de prix, tous ceux qui vivent du trafic de leur site web voient leur modèle menacé. Si l'IA donne la réponse, pourquoi on irait encore sur leur site ?
C'est une redistribution totale des cartes. Et pour faire tourner tout ça, les objets, les agents, le zéro clic, il faut une puissance de calcul et une énergie absolument délirante.
C'est l'iceberg caché.
L'infrastructure.
Et là, les chiffres sont irréel. On parle du projet Stargate mené par OpenAI, SoftBank et Oracle.
Le chiffre est de près de 1400 milliards de dollars d'engagement.
1400 milliards, c'est un chiffre qui ne veut presque rien dire tellement il est énorme.
C'est le PIB d'un pays comme l'Espagne.
Pour un seul projet d'infrastructure.
C'est de la folie pure.
C'est une course à l'armement technologique, ni plus ni moins. Les objectifs d'OpenAI sont tout aussi fous. Ils visent 250 gigawatts de capacité énergétique d'ici 2033.
150 gigawatts, pour mettre ça en perspective.
C'est plus du double de toute la capacité de production électrique installée en France aujourd'hui.
Déploiement, évidemment, n'est pas sans poser de problème. C'est le revers de la médaille.
Forcément. Le premier défi, c'est celui de la qualité. La démocratisation des outils a entraîné l'émergence de ce que les experts appellent l'IA slop.
La gadoue IA en français, j'aime bien l'image.
C'est exactement ça. Une prolifération de contenus de très faible qualité générés en masse, des articles de blogs sans âme, des images génériques, des résumés de livres qui n'ont jamais été lus.
Le bruit de fond de l'Internet de 2026.
C'est ça. Trouver une info fiable, originale, de qualité au milieu de ce déluge, ça devient une véritable compétence.
Et ce problème de qualité débouche sur un risque bien plus grave, la désinformation et la fraude.
Exactement. Et c'est là qu'on boucle la boucle avec la régulation européenne pourquoi Bruxelles se démène avec le AI Act, parce que la multiplication des deepfakes et des contenus synthétiques ultra-réalistes est une menace existentielle pour la confiance.
Distinguer le vrai du faux devient un casse-tête quotidien.
Ça ouvre des boulevards pour la manipulation d'opinion, mais aussi pour des arnaques financières de plus en plus sophistiquées. C'est le côté obscur de cette puissance incroyable. L'outil peut construire comme il peut détruire.
Alors, que faut-il retenir de tout ça ? En regardant cette journée du 2 février 2026, on a vraiment l'impression d'être à un point de bascule.
Oui, c'est une photographie parfaite de l'écosystème.
On a l'énergie créatrice des étudiants, la tentative de mise en ordre des régulateurs et le rouleau compresseur de l'industrie. Tout ça se percute en temps réel.
Et si on doit partir avec une idée à méditer, elle est sans doute liée à cette transformation du travail dont on parlait.
C'est-à-dire sur les compétences.
Oui, à mesure que l'IA devient un copilote dans presque tous les métiers, la compétence humaine la plus précieuse, ce n'est peut-être plus de savoir créer la première ébauche d'un texte, d'un code, d'un design. La machine le fera plus vite.
La compétence clé devient l'art de la critique.
L'art de la critique, de l'édition, de la vérification, de l'amélioration de ce que l'IA propose. Et ça, ça nous amène à une question vertigineuse qui dépasse le cadre du travail.
Laquelle ?
Qu'est-ce que savoir dans un monde où la première réponse nous est toujours donnée par une machine ? Redéfinir ça, c'est peut-être notre plus grand défi intellectuel pour la décennie à venir.
Une question essentielle, en effet. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.